Maintenant qu'il ne me restait plus rien à désirer, je me sentais devenir injuste. Je m'affectais de ce que Marthe put mentir sans scrupule à sa mère, et ma mauvaise foi lui reprochait de pouvoir mentir. Pourtant l'amour, qui est l'égoïsme à deux, sacrifie tout à soi et vit de mensonges. Poussé par le même démon, je lui fis encore le reproche de m'avoir caché l'arrivée de son mari. Jusqu'alors, j'avais maté mon despotisme, ne me sentant pas le droit de régner sur Marthe. Ma dureté avait des accalmies. Je gémissais. Bientôt, tu me prendras en horreur. Je suis comme ton mari, aussi brutal. Mais il n'est pas brutal, disait-elle. Je reprenais de plus belle. Alors, tu nous trompes tous les deux. Dis-moi que tu l'aimes, sois contente. Dans 8 jours, tu pourras me tromper avec lui. Elle se mordait les lèvres, pleurait. Mais qu'ai-je donc fait qui te rende aussi méchant, je t'en supplie. N'abîme pas notre premier jour de bonheur. Oh, il faut que tu m'aimes bien un peu pour qu'aujourd'hui soit ton premier jour de bonheur. Ces sortes de coups blessent celui qui les porte. Je ne pensais rien de ce que je disais, et pourtant j'éprouvais le besoin de le dire. Il m'était impossible d'expliquer à Marthe que mon amour grandissait. Sans doute atteignait-il l'âge ingrat, et cette taquinerie féroce, c'était la mue de l'amour devenant passion. Je souffrais. Je suppliais Marthe d'oublier mes attaques. La bonne des propriétaires glissa des lettres sous la porte. Marthe les prit, il y en avait 2 de Jacques. Comme réponse à mes doutes, fais-en, dit-elle, ce que bon te semble. J'eus honte. Je lui demandai de les lire, mais de les garder pour elle. Marthe, par une de ses réflexes, « Non, non, non !» Marthe, par un de ces réflexes qui nous poussent aux pires bravades, déchira une des enveloppes. Difficile à déchirer, la lettre devait être longue. Son geste devint une nouvelle occasion de reproche. Je détestais cette bravade, le remords qu'elle ne manquerait pas d'en ressentir. Oh, je fis malgré tout un effort, et voulant qu'elle ne déchirât point la seconde lettre, je gardais pour moi que, d'après cette scène, il était impossible que Marthe ne fût pas méchante. Sur ma demande, elle la lut. Un réflexe pouvait lui faire déchirer la première lettre, mais non lui faire dire, après avoir parcouru la seconde, « Le ciel nous récompense de ne pas avoir déchiré la lettre. Jacques m'y annonce que les permissions viennent d'être suspendues dans son secteur. » Il ne viendra pas avant 1 mois. L'amour seul excuse de telle faute de goût. Ce mari commençait à me gêner, plus que s'il avait été là, et que s'il avait fallu prendre garde. Une lettre de lui prenait soudain l'importance d'un spectre. Nous déjeunâmes tard, vers 5 heures, nous allâmes nous promener au bord de l'eau. Marthe resta stupéfaite lorsque d'une touffe d'herbe je sortis un panier sous l'œil de la sentinelle. L'histoire du panier l'amusa bien. Je n'en craignais plus le grotesque. Nous marchions sans nous rendre compte de l'indécence de notre tenue, nos corps collés l'un contre l'autre. Nos doigts s'enlaçaient. Ce premier dimanche de soleil avait fait pousser les promeneurs à chapeau de paille, comme la pluie les champignons. Les gens qui connaissaient Marthe n'osaient pas lui dire bonjour, mais elle, se rendant compte de rien, leur disait bonjour sans malice. Ils durent y voir une fanfaronnade. Elle m'interrogeait pour savoir comment je m'étais enfui de la maison. Elle riait, puis sa figure s'assombrissait. Alors elle me remerciait en me serrant les doigts de toutes ses forces d'avoir couru tant de risques. Nous repassâmes chez elle pour y déposer le panier. À vrai dire, j'entrevis pour ce panier, sous forme d'envoi aux armées, une fin digne de ces aventures. Mais cette fin était si choquante que je la gardais pour moi. Marthe voulait suivre la Marne jusqu'à la Varenne. Nous dînerions en face de l'île d'Amour. Je lui promis de lui montrer le musée de l'écu de France, le premier musée que j'avais vu tout enfant et qui m'avait ébloui. J'en parlais à Marthe comme d'une chose très intéressante. Mais quand nous constatâmes que ce musée était une farce, je ne voulus pas admettre que je m'étais trompé à ce point. Les ciseaux de Fulbert, tout, j'avais tout cru. Je prétendis avoir fait à Marthe une plaisanterie innocente. Elle ne comprenait pas car il était peu dans mes habitudes de plaisanter. À vrai dire, cette déconvenue me rendait mélancolique. Je me disais, peut-être moi qui aujourd'hui crois tellement à l'amour de Marthe, y verrais-je un attrape-nigaud comme le musée de l'écu de France? Car je doutais souvent de son amour. Quelquefois, je me demandais si je n'étais pas pour elle un passe-temps, un caprice dont elle pourrait se détacher du jour au lendemain, l'appel la rappelant à ses devoirs. Pourtant, me disais-je, il y a des moments où une bouche, des yeux ne peuvent mentir. Certes, mais une fois ivres, les hommes les moins généreux se fâchent si l'on n'accepte pas leur montre, leur portefeuille. Dans cette veine, ils sont aussi sincères que s'ils se trouvent en état normal. Les moments où on ne peut pas mentir sont précisément ceux où l'on ment le plus, et surtout à soi-même. Croire une femme au moment où elle ne peut mentir, c'est croire à la fausse générosité d'un avare. Ma clairvoyance n'était qu'une forme plus dangereuse de ma naïveté. Je me jugeais moins naïf, je l'étais sous une autre forme, puisqu'aucun âge n'échappe à la naïveté. Celle de la vieillesse n'est pas la moindre. Cette prétendue clairvoyance m'assombrissait tout, me faisait douter de Marthe. Plutôt, je doutais de moi-même, ne me trouvant pas digne d'elle. Aurais-je eu 1000 fois plus de preuves de son amour, je n'aurais pas été moins malheureux. Je savais trop le trésor de ce qu'on n'exprime jamais à ceux qu'on aime, par la crainte de paraître puéril, pour ne pas redouter chez Marthe cette pudeur navrante, et je souffrais de ne pouvoir pénétrer son esprit. Je revins à la maison à 9h30 du soir. Mes parents m'interrogèrent sur ma promenade. Je leur décrivis avec enthousiasme la forêt de Sénart et ses fougères, 2 fois hautes comme moi. Je parlais aussi de Brunoir, charmant village où nous avions déjeuné. Tout à coup, ma mère, moqueuse, m'interrompant, à propos, René est venu cet après-midi à 4 heures, très étonné en apprenant qu'il faisait une grande promenade avec toi. J'étais rouge de dépit. Cette aventure et bien d'autres m'apprirent que, malgré certaines dispositions, je ne suis pas fait pour le mensonge. On m'y attrape toujours. Mes parents n'ajoutèrent rien d'autre, ils eurent le triomphe modeste. Mon père, d'ailleurs, était inconsciemment complice de mon premier amour. Il l'encourageait plutôt, ravi que ma précocité s'affirmât d'une façon ou d'une autre. Il avait aussi toujours eu peur que je tombasse entre les mains d'une mauvaise femme. Il était content de me savoir aimer d'une brave fille. Il ne devait se cabrer que le jour où il eut la preuve que Marthe souhaitait le divorce. Ma mère, elle, ne voyait pas notre liaison d'un aussi bon œil. Elle était jalouse. Elle regardait Marthe avec des yeux de rivale. Elle trouvait Marthe antipathique, ne se rendant pas compte que toute femme, du fait de mon amour, le lui serait devenue. D'ailleurs, elle se préoccupait plus que mon père du qu'en dira-t-on. Elle s'étonnait que Marthe pût se compromettre avec un gamin de mon âge. Puis elle avait été élevée à F, et dans toutes ces petites villes de banlieue, du moment qu'elle s'éloigne de la banlieue ouvrière, sévissent les mêmes passions, la même soif de racontar qu'en province. Mais en outre, le voisinage de Paris rend les racontars, les suppositions plus délurées. Chacun y doit tenir son rang. C'est ainsi que, pour avoir une maîtresse dont le mari était soldat, je vis peu à peu, et sur l'injonction de leurs parents, s'éloigner mes camarades. Ils disparurent par ordre hiérarchique, depuis le fils du notaire jusqu'à celui de notre jardinier. Ma mère était atteinte par ces mesures qui me semblaient un hommage. Elle me voyait perdu par une folle. Elle reprochait certainement à mon père de me l'avoir fait connaître et de fermer les yeux, mais estimant que c'était à mon père d'agir et mon père se taisant, elle gardait le silence. Je passais toutes mes nuits avec Marthe. J'y arrivais à 10 h 30, j'en repartais le matin à 5 ou 6. Je ne sautais plus par-dessus les murs. Je me contentais d'ouvrir la porte avec ma clé. Mais cette franchise exigeait quelques soins. Pour que la cloche ne donnât pas l'éveil, j'enveloppais le soir son battant avec de l'ouate, et je l'ôtais le lendemain en rentrant. À la maison, personne ne se doutait de mes absences. Il n'en avait pas de même à J. Depuis quelque temps déjà, les propriétaires et le vieux ménage me voyaient d'un assez mauvais œil, répondant à peine à mes saluts. Le matin, à 5 heures, pour faire le moins de bruit possible, je descendais, mes souliers à la main. Je les remettais en bas. Un matin, je croisais dans l'escalier le garçon laitier. Il tenait ses boîtes de lait à la main. Je tenais, moi, mes souliers. Il me souhaita le bonjour avec un sourire terrible. Marthe était perdue. Il allait le raconter dans tout J. Ce qui me torturait encore le plus était mon ridicule. Je pouvais acheter le silence d'un garçon laitier, mais je m'en abstins faute de savoir comment m'y prendre. L'après-midi, je n'osais rien en dire à Marthe. D'ailleurs, cet épisode était inutile pour que Marthe fût compromise. C'était depuis longtemps chose faite. La rumeur me l'attribua même comme maîtresse, bien avant la réalité. Nous étions rendus compte de rien. Nous allions bientôt voir clair. C'est ainsi qu'un jour, je trouvai Marthe sans force. Le propriétaire venait de lui dire que depuis 4 jours, il guettait mon départ à l'aube. Il avait d'abord refusé de croire, mais il ne lui restait aucun doute. Le vieux ménage, dont la chambre était sous celle de Marthe, se plaignait du bruit que nous faisions nuit et jour. Marthe était atterrée et voulait partir. Il ne fut pas question d'apporter un peu de prudence dans nos rendez-vous. Nous nous en sentions incapables, le pli était pris. Alors Marthe commença de comprendre bien des choses qui l'avaient surprise. La seule amie qu'elle chérit vraiment, une jeune fille suédoise, ne répondait plus à ses lettres. J'appris que le correspondant de cette jeune fille, nous ayant un jour aperçu dans le train enlacé, il lui avait conseillé de ne pas revoir Marthe. Je fis promettre à Marthe que s'il éclatait un drame, où que ce fût, soit chez ses parents, soit avec son mari, elle montrerait de la fermeté. Les menaces du propriétaire, quelques rumeurs, me donnait tout lieu de craindre et d'espérer à la fois une explication entre Marthe et Jacques. Marthe m'avait supplié de venir la voir souvent pendant la permission de Jacques à qui elle avait déjà parlé de moi. Je refusais, redoutant de jouer mal mon rôle et de voir Marthe avec un homme empressé auprès d'elle. La permission devait être de 11 jours. Peut-être tricherait-il et trouverait-il le moyen de rester 2 jours de plus. Je fis jurer à Marthe de m'écrire chaque jour. J'attendis 3 jours avant de me rendre à la poste restante pour être sûr de trouver une lettre. Il y en avait déjà 4. Je ne pus les prendre, il me manquait un des papiers d'identité nécessaires. J'étais d'autant moins à l'aise que j'avais falsifié mon bulletin de naissance, l'usage de la poste restante n'étant permis qu'à partir de 18 ans. J'insistais au guichet, avec l'envie de jeter du poivre dans les yeux de la demoiselle des postes, de m'emparer des lettres qu'elle tenait et ne me donnerait pas. Enfin, comme j'ai été connu à la poste, j'obtins faute de mieux qu'on les envoya le lendemain chez mes parents. Décidément, j'avais encore fort à faire pour devenir un homme. En ouvrant la première lettre de Marthe, je me demandais comment elle exécuterait ce tour de force, écrire une lettre d'amour. J'oubliais qu'aucun genre épistolaire n'est moins difficile. Il n'y ait besoin que d'amour. Je trouvais les lettres de Marthe admirables et dignes des plus belles que j'avais lues. Pourtant, Marthe me disait des choses bien ordinaires et son supplice de vivre loin de moi. Il m'étonnait que ma jalousie ne fût pas plus mordante. Je commençais à considérer Jacques comme le mari. Peu à peu, j'oubliais sa jeunesse. Je voyais en lui un barbon. Je n'écrivais pas à Marthe, il y avait tout de même trop de risques. Au fond, je me trouvais plutôt heureux d'être tenu à ne pas lui écrire, éprouvant, comme devant toute nouveauté, la crainte vague de n'être pas capable et que mes lettres la choquassent ou lui paraissent naïves. Ma négligence fit qu'au bout de 2 jours, ayant laissé traîner sur ma table de travail une lettre de Marthe, elle disparut. Le lendemain, elle reparut sur la table. La découverte de cette lettre dérangeait mes plans. J'avais profité de la permission de Jacques, de mes longues heures de présence, pour faire croire chez moi que je me détachais de Marthe. Car si je m'étais d'abord montré fanfaron pour que mes parents apprissent que j'avais une maîtresse, je commençais à souhaiter qu'ils eussent moins de preuves. Et voici que mon père apprenait la véritable cause de ma sagesse. Je profitais de ses loisirs pour de nouveau me rendre à l'académie de dessin, car depuis longtemps je dessinais mes nus d'après Marthe. Je ne sais pas si mon père le devinait, du moins s'étonnait-il malicieusement et d'une manière qui me faisait rougir, de la monotonie des modèles. Je retournais donc à la grande chaumière, travaillais beaucoup, afin de réunir une provision d'études pour le reste de l'année, provision que je renouvellerai à la prochaine visite du mari. Je revis aussi René, renvoyé d'Henri IV. Il allait à Louis le Grand. Je l'y cherchais tous les soirs après la grande chaumière. Nous nous fréquentions en cachette, car depuis son renvoi d'Henri IV, et surtout depuis Marthe, ses parents, qui naguère me considéraient comme un bon exemple, lui avaient défendu ma compagnie. René, pour qui l'amour dans l'amour semblait un bagage encombrant, me plaisantait sur ma passion pour Marthe. Ne pouvant supporter ses pointes, je lui dis lâchement que je n'avais pas de véritable amour. Son admiration pour moi, qui ces derniers temps avait faibli, s'en accrut, séance tenante. Je commençais à m'endormir sur l'amour de Marthe. Ce qui me tourmentait le plus, c'était le jeûne infligé à mes sens. Mon énervement était celui d'un pianiste sans piano, d'un fumeur sans cigarette. René, qui se moquait de mon cœur, était pourtant épris d'une femme qu'il croyait aimer sans amour. Ce gracieux animal, espagnole blonde, se désarticulait si bien qu'il devait sortir d'un cirque. René, qui feignait la désinvolture, était fort jaloux. Il me supplia, mi-riant, mi-pâlissant, de lui rendre un service bizarre. Ce service, pour qui connaît le collège, était l'idée type d'un collégien. Il désirait savoir si cette femme le tromperait. Il s'agissait donc de lui faire des avances pour se rendre compte. Ce service m'embarrassa. Ma timidité reprenait le dessus, mais pour rien au monde, je n'aurais voulu paraître timide, et du reste, la dame vint me tirer d'embarras. Elle me fit des avances si promptes que la timidité, qui empêche certaines choses et oblige à d'autres, m'empêcha de respecter René et Marthe. Du moins, espérais-je y trouver du plaisir, mais j'étais comme le fumeur habitué à une seule marque. Il ne me resta donc que le remords d'avoir trompé René, à qui je jurais que sa maîtresse repoussait toute avance. Vis-à-vis de Marthe, je n'éprouvais aucun remords. Je m'y forçais. J'avais beau me dire que je ne lui pardonnerais jamais si elle me trompait, je n'y pus rien. « Ce n'est pas pareil, me donnais-je comme excuse, avec la remarquable platitude que l'égoïsme apporte dans ses réponses. » De même, j'admettais fort bien de ne pas écrire à Marthe, mais si elle ne m'avait pas écrit, j'eusse vu qu'elle ne m'aimait pas. Pourtant, cette légère infidélité renforça mon amour. Jacques ne comprenait rien à l'attitude de sa femme. Marthe, plutôt bavarde, ne lui adressait pas la parole. S'il lui demandait « Mais qu'as-tu ?» elle répondait « Rien ». Madame Grangier eut différentes scènes avec le pauvre Jacques. Elle l'accusait de maladresse envers sa fille, se repentait de la lui avoir donnée. Elle attribuait à cette maladresse de Jacques le brusque changement survenu dans le caractère de sa fille. Elle voulut la reprendre chez elle. Jacques s'inclina. Quelques jours après son arrivée, il accompagna Marthe chez sa mère, qui, flattant ses moindres caprices, encourageait sans se rendre compte son amour pour moi. Marthe était née dans cette demeure. Chaque chose, disait-elle à Jacques, lui rappelait le temps heureux où elle s'appartenait. Elle devait dormir dans sa chambre de jeune fille. Jacques voulut que tout au moins on y dressât un lit pour lui. Il provoqua une crise de nerfs. Marthe refusait de souiller cette chambre virginale. Monsieur Grangier trouvait ses pudeurs absurdes. Madame Grangier en profita pour dire à son mari et à son gendre qu'il ne comprenait rien à la délicatesse féminine. Elle se sentait flattée que l'âme de sa fille appartînt si peu à Jacques, car tout ce que Marthe ôtait à son mari, Madame Grangier se l'attribuait, trouvant ses scrupules sublimes. Sublimes, il l'était, mais pour moi. Les jours où Marthe se prétendait le plus malade, elle exigeait de sortir. Jacques savait bien que ce n'était pas pour le plaisir de l'accompagner. Marthe, ne pouvant confier à personne les lettres à mon adresse, les mettait elle-même à la poste. Je me félicitais encore plus de mon silence, car si j'avais pu lui écrire en réponse au récit des tortures qu'elle infligeait, je fusse intervenu en faveur de la victime. À certains moments, je m'épouvantais du mal dont j'étais l'auteur. À d'autres, je me disais que Marthe ne punirait jamais assez Jacques du crime de me l'avoir prise vierge. Mais, comme rien ne nous rend moins sentimental que la passion, j'étais somme toute ravi de ne pouvoir écrire et qu'ainsi Marthe continua de désespérer Jacques. Il repartit sans courage. Tous mirent cette crise sur le compte de la solitude énervante dans laquelle vivait Marthe. Car ses parents et son mari étaient les seuls à ignorer notre liaison, les propriétaires n'osant rien apprendre à Jacques par respect pour l'uniforme. Madame Grangier se félicitait déjà de retrouver sa fille et qu'elle vécut comme avant son mariage. Aussi les Grangier n'en revinrent-ils pas lorsque Marthe, le lendemain du départ de Jacques, annonça qu'elle retournait à J. Je l'y revis le jour même. D'abord je la grondais mollement, d'avoir été si méchante, mais quand je lus la première lettre de Jacques, je fus pris de panique. Il disait combien, s'il n'avait plus l'amour de Marthe, il lui serait facile de se faire tuer. Je ne démêlais pas le chantage. Je me vis responsable d'une mort, oubliant que je l'avais souhaitée. Je devins encore plus incompréhensible et plus injuste. De quelque côté que nous nous tournions, s'ouvrait une blessure. Marthe avait beau me répéter qu'il était moins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacques, c'est moi qui l'obligeais de répondre avec douceur. C'est moi qui dictais à sa femme les seules lettres tendres qu'il en ait jamais reçues. Elle les écrivait en se cabrant, en pleurant, mais je la menaçais de ne jamais revenir si elle n'obéissait pas. Que Jacques me dût ses seules joies atténuait mes remords. Je vis combien son désir de suicide était superficiel à l'espoir qui débordait de ses lettres en réponse aux nôtres. J'admirais mon attitude vis-à-vis du pauvre Jacques, alors que j'agissais par égoïsme et par crainte d'avoir un crime sur la conscience.